Merci pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Je suis Rukaita Abdrahman pour l'édition de 17h de ce mardi 8 novembre 2022. Tout de suite, les titres. Les travaux du sommet sur le climat se poursuivent à Sharm el-Cheikh en Égypte. Dans ce journal, vous suivrez un extrait du discours livré hier par le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, à la COP27. Le gouvernement nigérien a institué une journée nationale des relais communautaires en prélude à la célébration prévue le 10 novembre prochain. L'Agence nigérienne de volontariat pour le développement explique l'apport de ces acteurs pour les communautés. En partie magazine, nous parlerons des difficultés de mobilité que rencontrent les femmes de Saï pour accéder au centre de santé. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir. Comme annoncé, le président de la République, Mohamed Bazoum, participe à la COP27 à Sharm el-Cheikh en Égypte. Dans son discours hier au sommet sur le climat, le chef de l'État a rappelé les impacts du changement climatique au Sahel et l'importance de la mise en œuvre des engagements pour une meilleure adaptation. Suivant un extrait du discours du président de la République, Mohamed Bazoum, des propos recueillis par Télé Sahel.
À l'intérieur de l'Afrique, le Sahel est la région présentant les plus grandes vulnérabilités et mérite à ce titre un traitement particulier au regard des défis sécuritaires, climatiques, migratoires, sanitaires, alimentaires auxquels elle fait face. C'est pourquoi le Niger se réjouit des initiatives régionales comme l'initiative de la Grande Muraille Verte et la Commission Climat pour la région du Sahel. Ces initiatives visent en effet à contribuer à la sécurité alimentaire, la sauvegarde de la biodiversité, la préservation du capital naturel qui permet de renforcer l'adaptation et la résilience des populations et des écosystèmes. Comme on le voit, les promesses de financement de l'adaptation sur le climat ne manquent pas de pertinence. Mais entre leur conception et leur réalisation, il y a loin de la coupe aux lèvres. C'est pourquoi il faut définir de façon urgente les règles de la mise en œuvre des engagements souscrits.
Par ailleurs, des jeunes activistes nigériens présents également à la COP27 appellent à plus d'actions pour le climat comme le recyclage. Amina Issa Ado, directrice de l'entreprise Réagit pour la sauvegarde de l'environnement et la transformation intelligente des déchets, on l'écoute.
Les temps que nous passons des paroles aux actions, parce que la gestion des déchets fait partie des changements climatiques. Il faut qu'on puisse faire des actions concrètes. Aujourd'hui, les femmes, elles sont aussi impactées d'une manière ou d'une autre. Je suis une femme qui porte la voix des femmes pour dire on est dans une situation qui arrive, mais que si on s'unit, on peut quand même faire des actions pour atténuer, pour s'adapter au changement climatique à travers l'adaptation, comme on dit, et atténuer certains effets de changement climatique. Par exemple, la gestion des déchets. Produire moins de déchets, recycler. Quand vous prenez nos grands-parents, ils prenaient par exemple les coques d'arachide pour allumer le feu. Et ça n'avait pas trop d'impact sur l'environnement.
Autre aspect de ce journal, les organisations de la société civile de la région d'Agadez dénoncent depuis juin dernier le non-respect de certaines dispositions prévues par la réglementation au Niger par la Société des mines de Daza. C'est une société canadienne lancée le 5 novembre passé qui va exploiter l'uranium de la commune de Tchirozérine, région d'Agadez. Ramar Alatoufet, secrétaire général de la coordination de la société civile d'Arlit, explique qu'il est joint au téléphone par Gungumama Dantani.
Dans le comité, on parle de l'étude d'impact environnemental. Elle a été bâclée. Les populations n'ont pas participé à cette étude-là. Elles n'ont pas participé aux audiences publiques ni aux ateliers de validation de l'étude d'impact environnemental. L'audience publique a été faite à Agadez. Or, le public d'Agadez n'est pas le public concerné par le projet. Le public concerné par le projet se trouve dans la commune de Tchirozérine. Les populations auraient dû voir ce qui est prévu dans cette étude d'impact environnemental. Le dédommagement des populations, les fonds de réaménagement du site, les fonds pour les générations futures. On a parlé de 20% d'action pour l'État du Niger. Or, dans les sociétés telles que Somaïr, Komina, Timoraren, l'État a toujours eu 30-33% d'action. 60 ans après, on négocie, on n'est pas capable d'avoir 33%. Mais on n'a même pas pu avoir ce qu'on a eu il y a 60 ans. C'est ça qui est étonnant dans cette affaire.
Plusieurs hectares de terre ont brûlé dans un incendie qui s'est déclenché ce week-end dans le département de Tilia, région de Tawa. Selon Al-Hussein Aboubakar, le préfet du dit département, la cause de l'incendie n'a pas encore été déterminée. Il est joint au téléphone par Alamine Ouachar.
Et le premier cas a été déclaré le 24 octobre à Kimungar, à 28 km au nord du chef-lieu du département. Là, nous avons 89 hectares partis en fumée. Et le deuxième cas, ça a été déclaré à Tindouna, qui est situé à 30 km au nord-ouest du chef-lieu du département. Quand même, ça a été maîtrisé. Et enfin, le troisième cas, ça a été déclaré à Tintimaten, carrément à l'ouest. Donc, ça a passé à Bungar, Afissa, Yungwagar, Bakourat et Kneva, jusqu'à la frontière. On n'a pas les chiffres exacts. Pour le deuxième cas, c'était 1000 hectares partis en fumée. Nous envisageons organiser une tournée de sensibilisation donc dans les villages, là où il y a la concentration des éleveurs, et les sensibiliser par rapport au feu de brousse.
La troisième édition de la Semaine du Paysan sera célébrée dans la localité de Giratawa, région de Maradi, du 17 au 20 novembre prochain. La plateforme paysanne, dans un point de presse ce matin à Niamey, a annoncé les activités prévues auxquelles sont attendues environ 4 500 participants, dont des producteurs et productrices agro-silvopastoraux et halieutiques. Les détails avec Jibo Banya, président de la plateforme paysanne, au micro de Asmana China.
L'objectif général de la semaine du paysan est de créer un espace de dialogue permanent entre les productrices et les producteurs dans le domaine agro-silvopastoral et halieutique avec les plus hautes autorités, mais aussi de promouvoir un développement durable, un environnement de paix et de quiétude sociale pour les productrices et producteurs. Il y a d'abord le lancement de l'université paysanne en termes de renforcement de capacité, le lancement des activités de la réhabilitation de l'aménagement hydro-agricole de Giratawa, en même temps le lancement de la construction d'une centrale solaire toujours à Giratawa et le démarrage aussi des activités liées à la mise en place des marchés toujours à Giratawa. Le lancement régional des activités de mobilisation de Malfare par le président du Conseil économique et social, CESOC, une foire où vous allez retrouver les produits agro-silvopastoraux et halieutiques du pays et des pays voisins.
La première édition de la Journée nationale des relais communautaires de développement sera célébrée au Niger le 10 novembre et ce, chaque année. Une manière pour le gouvernement de marquer sa reconnaissance pour le service rendu par ses volontaires. Le directeur général de l'Agence nigérienne de volontariat pour le développement explique l'apport des relais communautaires dans le développement du pays. Dr Hamidine Hassan au micro de Habibou Garba.
On a des sortes de volontariats. Il y a des volontaires de compétences qui sont des gens sortis des universités qui ont des qualifications académiques dans le domaine de la santé, de l'agriculture, de l'élevage, dans tous les domaines. Et il y a des volontaires communautaires, communément appelés relais communautaires, qui sont ces hommes, ces femmes qui sont choisis au sein de leur communauté pour conduire un certain nombre d'activités volontairement au profit des développements socio-économiques de leur communauté. Ces sont qui vous voyez dans le domaine de la santé, en train de faire la prévention, de passer de l'information dans le domaine de l'hygiène assainissement, de faire la prise en charge de certaines maladies, l'État a décidé à travers ses décrets issus du Conseil des ministres du 3 novembre d'organiser une journée nationale des relais communautaires pour reconnaître l'effort qu'ils sont en train de faire. Et cette année, nous avons prévu de célébrer cette journée le 10 novembre 2022.
Cela fait un an jour pour jour qu'a eu lieu l'incendie des classes en paillote de l'école AFN à Maradi, un sinistre qui a coûté la vie à 28 enfants du préscolaire. Un an après ce drame, les classes ont été reconstruites, mais cette fois-ci en matériaux définitifs. Écoutons le témoignage de la directrice de l'école, Madame Aïchatou Ibrahim. Elle est au micro de Mohamed Mama.
C'est quelque chose qu'on ne peut jamais oublier. Lorsque les classes ont pris feu, le premier enfant qu'elles ont pris, que j'ai regardé, je n'ai pas pu résister. Je me suis évanouie. Vraiment, c'est quelque chose d'inoubliable. Il y a eu beaucoup de changements parce que nous avons eu des classes en matériaux définitifs. Au début, j'avais une classe en matériaux définitifs. Et maintenant, Dieu a fait qu'on a 7 classes. Donc, il y a 6 classes vraiment construites. Et ce sont des bonnes volontés qui nous ont aidés. Et il y a eu l'UNICEF aussi qui nous a donné des bâches. Donc, on n'a plus de paillettes dans l'école, mais seulement on a des bâches de réfugiés que nous avons transformées en classes pour les enfants. Bien qu'il y a beaucoup qui sont réticents, parce que le voir les bâches comme des paillettes. Mais avec la leçon du moral, nous avons eu à les calmer pour les mettre dans les bâches. Mais ce sont les enfants du primaire qui sont dans les bâches. Ceux du préscolaire, comme l'a dit le ministre, ils sont dans les classes en matériaux définitifs comme ce sont des petits enfants.
La suite de ce journal, le froid commence à s'installer au Niger. Selon les spécialistes, pendant cette période, il est important de bien protéger et alimenter les enfants pour qu'ils puissent résister mieux au froid. Voici quelques conseils pratiques du nutritionniste Dr Mohamed Harakwe. Il est au micro d'Alamine Ouachar.
Cette période se caractérise par un froid intense, couplé à l'apparition de maladies respiratoires comme le rhume, ce qui pousse l'organisme à réguler d'une part la température corporelle. Pour faire face à cette élévation de besoins énergétiques et nutritionnels, l'alimentation chez l'enfant doit tout simplement être supplémentée. C'est-à-dire qu'en plus de l'alimentation au quotidien qui va assurer la thermorégulation, ils auront besoin d'une part d'une supplémentation en vitamines et en minéraux pour faire face aux infections. Donc ces vitamines et minéraux sont dans les légumes et les fruits comme les carottes, le chou, le moringa, les oranges, la papaye. Et d'autre part, ils auront également besoin d'une supplémentation en protéines animales pour faire face à la régénération cellulaire. Ces protéines animales sont généralement rencontrées dans le lait, le poisson, les œufs.
Et puis la partie magazine de cette édition. La fréquentation des centres de santé, notamment par les femmes, est impactée par la situation sécuritaire dans certains départements de la région de Tillabéri. Et ce, depuis l'instauration de certaines mesures de l'état d'urgence. Comment cette situation touche les femmes? Réponse avec notre correspondante à Saï Fatih Amadou.
Pour le bien-être des femmes enceintes et allaitantes, les agents de santé recommandent le respect strict des consultations. Cependant, ces dernières années, elles se font rares, souligne la sage-femme Madame Chérif Fatih, qui attire l'attention sur l'importance de la fréquentation des centres de santé.
Les femmes enceintes rencontrent d'énormes difficultés pendant leur grossesse et même à l'accouchement. Aujourd'hui, après la première consultation prénatale, certaines femmes ne reviennent plus. Dans le temps, il est recommandé à la femme enceinte de faire 4 consultations prénatales. Mais aujourd'hui, c'est 8 consultations. Donc, il est important de respecter cela depuis les débuts de la grossesse. Et c'est gratuit. C'est au cours de ces consultations même qu'on donne gratuitement à la femme enceinte les médicaments contre le paludisme. On lui fait aussi l'injection contre le tétanos. C'est pourquoi on appelle à ces femmes enceintes de respecter les consultations prénatales pour leur bonne santé.
Certes, la fréquentation des femmes au centre de santé de Saï a considérablement diminué. Mais les femmes elles-mêmes expliquent cette situation à certaines mesures de l'état d'urgence qui limitent leur mouvement dans la zone. Quelques femmes témoignent des difficultés qu'elles rencontrent.
À ce moment où il n'y a ni véhicule ni moto, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Parce qu'avec la charrette, c'est compliqué. Avec à peu près 10 km à parcourir avant d'y être, la personne souffre. Lorsqu'il y avait les motos, dès que ça commence, on appelle une moto. S'il n'y en a pas dans la ville, on fait appel à ceux de l'extérieur. Ils viennent prendre la personne et l'amènent rapidement.
Lorsque il y avait les motos, on venait faire nos consultations prénatales rapidement. Pour un accouchement, on amène rapidement la personne et retourner saine et sauve. Mais maintenant, c'est un sérieux problème pour nous.
S'il y avait des motos, le problème d'aller se soigner ne se posera pas. Avant-hier, j'avais un malade à Torodji. On a passé toute la journée à m'appeler afin de trouver un moine, le transportant au centre de santé et je n'ai pas eu. Si les motos circulaient, la situation sera prise en charge immédiatement.
Dans la région de Tillabéri, les mesures prises pour lutter contre l'insécurité rendent difficile l'accès des populations aux services de santé. Et cela pourrait davantage impacter la prise en charge des malades et des femmes, notamment pour les accouchements.
C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. La suite de nos programmes, le journal en tamashek avec Habib Ahmed. Très bonne suite de réception et au revoir.
Tous les jours, écoutez les programmes du studio Kalangou sur les ondes de nos radios partenaires.
Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h.
N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires.
Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine.
Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15.
Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine.
Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada.
Et Studio Kalangou, au rythme du Niger.